Appelez-nous. Exprimez-vous. 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est une émission spéciale que nous vous proposons jusqu'à 11h, heure de Paris, 9h en temps universel. Nous allons, avec vos réactions, vos analyses, vos commentaires, revenir sur les 41 ans de la présidence Bongo Ondimba. C'est vrai qu'avec le décès du doyen des chefs d'État africains, c'est incontestablement une page de l'histoire du Gabon qui s'est tournée hier après-midi, mais également une page des relations entre la France et l'Afrique, car le président Bongo Ondimba, vous le savez, était un personnage clé de ce qu'on appelle la France-Afrique. Alors comment expliquez-vous cette longévité à la tête du Gabon? Comment expliquez-vous qu'il se soit maintenu finalement si longtemps, qu'il ait réussi à maintenir, contrôler son opposition? Il est resté au pouvoir 4 décennies, un pouvoir sans partage malgré, rappelons-le tout de même, l'instauration du multipartisme en 1990. Les principaux opposants ont succombé les uns après les autres à la tentation du pouvoir. Ils ont rejoint la majorité présidentielle. 4 décennies donc sans alternance et malgré tout une certaine stabilité, une certaine unité nationale. Omar Bongo Ondimba, c'était aussi un médiateur. On en a beaucoup parlé ce matin dans l'émission spéciale, notamment en Angola, en Centrafrique, au Tchad ou encore au Congo-Brazzaville. Mais ces dernières années, le nom du président gabonais a été cité dans plusieurs affaires, et notamment celle dite des biens mal acquis. Alors vous êtes très nombreux, évidemment, à souhaiter réagir à la disparition de cette figure incontestable de la scène africaine. L'antenne vous appartient, vous nous rejoignez, 33 1 53 92 64 40. Si vous nous appelez de France, vous composez le 01 53 92 64 40. Et toute l'équipe, évidemment, réceptionne vos commentaires. Et pour lancer le débat et pour commencer cette émission spéciale, nous accueillons Jean Lié. Bonjour Jean Lié.
Bonjour Juan Gomez.
Alors vous nous appelez de Libreville au Gabon et vous revenez surtout sur les différentes analyses occidentales que vous avez pu écouter ces dernières heures, notamment sur l'antenne de RFI.
Écoutez, moi ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que nous sommes ce jour à la croisée des chemins pour ce qui concerne les Gabonais. Et devant cette échéance, il y a lieu d'avoir du discernement. C'est-à-dire, par rapport aux analyses qui sont faites sur le passé du président Defunt qui vient de le quitter, il y a lieu d'être vigilant, en ce sens que vous me permettrez quelques indications. En gros, qu'est-ce qu'on peut reprocher au Gabon ou au régime gabonais? N'oublions pas qu'au niveau du Gabon, comme crédit, nous avons un taux de scolarisation qui est un des plus performants, un des plus élevés au monde, si ce n'est en Afrique.
90% des enfants sont scolarisés au Gabon. C'est le chiffre officiel.
Au Gabon. Nous avons un taux d'urbanisation qui est aussi un des plus élevés en Afrique. En ce qui concerne les infrastructures sanitaires, il ne faut pas oublier que le Gabon est un des pays où vous avez au minimum 2 hôpitaux par province. Vous avez au niveau du Gabon des infrastructures de télécommunications qui sont parmi les plus performantes, je pense, du continent. Je crois sincèrement que sur ces plans, il faut être vigilant au niveau des analyses.
Donc, excusez-moi, Jean Lié, à vous entendre, la manne pétrolière a donc profité aux Gabonais et à la population.
Vous me permettrez, là, c'est là où j'en viens tout justement. Je pense que c'est un des conseillers, je crois que c'était pas M. Mitterrand qui l'a dit ce matin, ou l'ancien conseiller des affaires africaines qui a dit ceci. Je pense qu'il n'y avait pas de compagnie pétrolière gabonaise jusqu'à un passé récent. Et je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de compagnie pétrolière gabonaise. Je tiens à vous dire ceci. Nous sommes une ancienne colonie française, mais on s'échappe souvent d'une réalité. Nous avons eu une transition coloniale, mais basée sur l'administration. Nous n'avons jamais eu de transition coloniale basée sur l'entreprise. Or, le monde actuel résonne sur un monde, sur des considérations économiques. Cette transition n'a jamais été faite, je tiens à le dire. Et voyez-vous, on a plus basé sur la politique, le développement, que sur l'économie. Et les responsabilités dans ce cas ne sont pas uniquement gabonaises, elles sont partagées. Vous comprenez? C'est ce que je tiens à le dire, elles sont partagées. Lorsqu'on dit bâillonner, je viens sur une considération politique. Lorsqu'on dit bâillonner l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous que Abdoulaye Wade a été un ministre de Abdou Diouf. Hein. Faut pas l'oublier.
Abdoulaye Wade, l'actuel président sénégalais, oui.
Il a été ministre d'Abdou Diouf, donc je ne sais pas ce que ça veut dire bâillonner l'opposition. Nous avons des considérations africaines qu'il ne faut pas nécessairement mettre en symétrie avec des considérations occidentales. Il faut que nos cultures se mettent aussi en marche dans notre manière de gouverner. Et c'est ce qu'a fait Omar Bongo.
Alors,
je ne pense pas qu'on puisse Oui.
Jean Lier, restez en ligne, n'en raccrochez pas. Vous êtes très nombreux ce matin à souhaiter vous exprimer sur l'antenne d'RFI. Je voudrais qu'on accueille Marc, qui est également à Libreville. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Juan.
Et bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous insistez sur la gouvernance.
Non, j'insiste sur la gouvernance. J'aimerais reprendre les propos de mon prédécesseur. Quand il évoque le nom de Abdou Diouf, il faudrait aussi te rappeler que quand Abdou Diouf a intégré le gouvernement, il l'a intégré en tant qu'opposant. Il n'a jamais intégré la majorité présidentielle au Sénégal. Par contre, au Gabon, tous les opposants qui ont intégré le gouvernement, ils l'ont intégré en tant que membre de la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'ils se sont débarrassés de leur statut d'opposant. Ça, c'est un premier élément.
Et comment vous l'expliquez justement, Marc ? C'est intéressant, justement, cette particularité pratiquement gabonaise, que l'opposition, en tout cas les principaux opposants, les opposants historiques, aient, au fur et à mesure, rejoint la mouvance présidentielle.
Ah ben, c'est ce que nous avons dénoncé. C'est-à-dire le système de corruption généralisé qui a caractérisé le système. Vous pensez un seul instant que quand un opposant arrive et dénonce un certain nombre de travers du système, et quand on lui propose par exemple un poste, il prend le poste et il se comporte exactement, parfois même pire que ce que le système qu'il a dénoncé faisait. Je prends le cas de M. Barbosso, je prends le cas de certains que nous avons appréciés, comme Mnanga Moussaoui. Alors, c'est vous dire que c'est la distribution de la manne pétrolière à des fins purement politiques et pas pour le développement du pays, qui a fait en sorte que ce système aujourd'hui soit décrié par un certain nombre d'acteurs de la société civile que nous sommes.
Et en même temps, Marc, il y a une voiture qui passe, vous êtes à l'extérieur, dans les nombreuses réactions depuis l'annonce hier en fin d'après-midi du décès d'Omar Bongo Ondimba, beaucoup insistent sur la stabilité du Gabon, sur la cohésion nationale de ce pays.
Oui, il faut dire effectivement par rapport à ce point, il faut dire que M. Bongo a régné à la tête du Gabon pendant 41 ans comme un père de famille. Nous sommes en Afrique. Et le fait que le Gabon soit très peu peuplé a fait en sorte que tous les coins et recoins du Gabon, presque toutes les familles que M. Bongo connaisse, presque toutes les familles. Et son rôle a été effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes. La plupart des problèmes que nous avons connus au Gabon se sont résolus au palais présidentiel au bord de mer.
Juste Jean-Lier, on va redonner la parole. Votre réseau téléphonique, Marc, se dégradait. Jean-Lier à Libreville, un petit mot de conclusion et on va accueillir François qui est également au Gabon. Jean-Lier.
Oui, ce que je veux dire, c'est que, sincèrement, Juan, vous savez, aucune œuvre sur cette terre n'est parfaite. Vous venez de le dire, il y a une communauté d'espace d'analyse qui dit que le Gabon a été un havre de paix, le Gabon a été un havre de stabilité. Sachez une chose, le Gabon est un des rares pays qui a continué à payer ses fonctionnaires. Le Gabon est un pays qui n'a pas eu de situation de paiement. Je pense que rien n'est parfait, mais nous devons continuer dans la lancée de ce qui a été fait. Et je vous dis, le but n'est pas de dire que tout est nul. Le but est de dire, il y a une base qui a été faite, construisons autour de cette base et nous pourrons prospérer à nouveau. Bien. Moi, je pense.
Merci. Voilà. Merci Jean-Lier de cette réaction. Merci également à Marc de nous avoir contacté. François, vous êtes le bienvenu. Vous êtes à Libreville, on vous écoute.
Oui, bonjour Juan.
Bonjour.
Merci
François.
Beaucoup de nous donner la parole. Alors moi, je vais juste exprimer un peu la tristesse et la douleur qui frappe en ce moment la nation gabonaise, reconnaître que le chef de l'État gabonais, en dépit du bilan de son règne qu'on pourrait faire, reconnaître tout de même qu'il y a certains éléments qui ont fait de lui un homme équilibré, pondéré, un homme qui a su gérer les situations chaudes dans notre nation, notamment entre 90 et 94. Ce fut des moments assez difficiles pour la nation parce qu'on avait besoin des changements, on avait besoin d'une alternance, on avait besoin d'un nouveau départ au niveau de la nation avec l'arrivée du multipartisme.
Mais à quoi a servi excusez-moi François, à quoi a servi l'instauration du multipartisme au Gabon?
Bon, en fait, aujourd'hui quand on voit le bilan, ça n'a servi finalement à rien. On aurait souhaité, par exemple, que le multipartisme, en fait, apporte une certaine innovation, notamment sur le plan démocratique. La démocratie aurait pu aussi entraîner le développement de la nation, mais on s'est rendu compte que plus on avançait après le multipartisme, qu'on était en train de revenir un tout petit peu
à un parti unique autour duquel devait maintenant graviter un certain nombre de partis qui, à l'époque, étaient des partis opposants. Mmh. Et aujourd'hui, on se retrouvait un peu dans cette dynamique-là où, en vérité, le multipartisme n'est plus ce qu'on aurait souhaité depuis les années 90. Oui.
Alors François, ne raccrochez pas, on va essayer d'améliorer le réseau téléphonique. Beaucoup d'appels, évidemment, du Gabon. Marie-Yvonne nous appelle de Madagascar. Bonjour Marie-Yvonne.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Oui, bon ben écoutez, moi je pense que pour toute personne qui décède, il faut vraiment dire paix à son âme, comme toute personne. Bon, concernant donc Bongo, il a été un bon médiateur, donc on entend très souvent le sage, c'est ce qui revient hein, mm-hmm. de ce que disent les auditeurs.
Non seulement les auditeurs, excusez-moi Marie-Yvonne, non seulement les auditeurs, mais quelques auditeurs, mais aussi les réactions officielles. Jacques Chirac et son épouse a évoqué effectivement un sage. La France salue un grand ami, un fidèle ami de la France, a dit hier Nicolas Sarkozy. Le sage également un terme employé par d'autres personnalités sur le continent africain, Laurent Gbagbo notamment, le chef d'État ivoirien. Donc vous voyez, il y a un concert de louanges.
Oui, concert de louanges, donc sage. C'est quand même assez étonnant qu'en Afrique, on entend, que concernant l'Afrique, on entend très souvent sage, papa, tonton, père. Je crois que c'est des termes qu'il faut quand même oublier. Nous sommes au 21e siècle. Je doute fort que une personnalité d'un certain âge en Europe décède. On parlera de sage, de sagesse. Hein, de toute façon, la sagesse vient avec l'âge, donc tout le monde sera sage avec l'expérience. Donc, cela dit, concernant Bongo, il faut évoluer. Je crois que c'est un passage obligé, tous ces dirigeants qui sont restés au pouvoir un certain temps pour la stabilité, la paix, d'accord, reconnaissons-lui d'ailleurs d'avoir instauré la paix, assuré la paix dans son pays. Mais nous sommes au 21e siècle, il faut évoluer. Le Gabon, c'est un petit pays riche. Mais paradoxalement pauvre.
Mais c'est paradoxal ce que vous dites également, Marie-Yvonne.
Quelle est la nouvelle ère? Quel est le dynamisme qui va aujourd'hui se mettre en place? Est-ce qu'il a doté son pays d'institutions capables justement d'assurer une stabilité dans une telle période de transition?
Période de transition qui est censée durer 45 jours, comme le stipule d'ailleurs la Constitution. Mais c'est paradoxal ce que vous dites, Marie-Yvonne. C'est-à-dire que d'un côté, vous saluez le fait qu'il ait réussi à préserver l'unité nationale et en même temps, vous avez le sentiment que malgré l'instauration du multipartisme, c'est encore le multipartisme qui règne au Gabon.
Il a instauré la paix. Écoutez, comme la plupart des pays africains, ils sortaient de période de colonialisme, donc bon, il fallait, je pense, quand même des dirigeants, j'ai entendu, désignés, choisis par Sokar, etc. Bon, oui, peut-être que, je pense qu'à l'époque, oui, il fallait le faire, mais bon, aujourd'hui, il faut avancer, il faut évoluer, il faut que les pays choisissent eux-mêmes leurs dirigeants. Multipartisme, démocratie, c'est des termes qu'il faut arrêter concernant l'Afrique. Il faut arrêter. Quelles sont les institutions aujourd'hui stables, pérennes, pour assurer la stabilité? Il ne faut pas que la stabilité soit assurée par des négociations ou des associations politiques, géopolitiques. Donc, il faut déjà que le pays se dote de ces institutions. Je rappelle
que selon la constitution gabonaise, c'est le président du Sénat, en l'occurrence la présidente Rose Francine Rogombe, qui doit assurer la transition jusqu'au scrutin, un scrutin qui doit se dérouler au plus tard 45 jours après le constat de la vacance du pouvoir. Merci Marie-Yvonne de nous écouter à Madagascar. Nous repassons au standard au 01 53 92 64 40. Émission spéciale consacrée à la mort hier du président gabonais Omar Bongo Ondimba. Régis, bonjour.
Bonjour Juan.
Bonjour et bienvenue sur l'antenne.
Merci.
Alors il faut éteindre la radio peut-être, j'entends un léger écho, donc ça risque probablement de vous perturber lorsque vous allez nous parler et de perturber également l'ensemble des auditeurs. Vous avez éteint la radio, Régis ?
Je suis très loin de la radio.
Vous êtes très loin de la radio. Allez-y, on vous écoute.
Ce que je peux dire aujourd'hui, Juan, vous allez le constater, j'ai à peine 30 ans. Et je n'ai connu que le président Bongo. Donc ça veut dire que pour la majorité des jeunes de mon âge, nous n'avons connu que cet homme. Et l'annonce de la mort de M. Bongo ne peut que nous satisfaire. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les institutions sont là, il y a le Sénat, l'Assemblée nationale, et comme le stipule la Constitution, c'est la présidente du Sénat qui doit assurer l'intérim. Mmh. Ce que nous souhaitons, c'est que cela se fasse. Oui.
Oui, que cela se fasse.
Que cela se fasse en respectant la Constitution.
Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment que la Constitution sera respectée au vu de ce que vous avez pu constater ces dernières heures dans votre pays?
Je pense que la Constitution va être respectée. Mais le problème qui se pose dans les états-majors politiques, notamment au Parti démocratique gabonais, c'est qu'il y a des petites guerres à l'intérieur de ce parti. Donc, et s'il y a problème, le problème partirait forcément de là-bas. Dans l'opposition, les choses sont suffisamment organisées. Donc, ce que nous demandons à ces gens-là qui ont servi autour de Bongo et qui ne juraient que par lui, de lui rendre cet hommage-là.
Donc vous craignez des luttes de pouvoir, et notamment des luttes au sein du parti présidentiel.
Voilà, justement. Et cet homme et ces gens-là qui ont servi, certes, le pays avec Bongo, il se doit de lui rendre cet hommage-là en préservant la paix qu'il a tant conservée à un prix inimaginable. Parce que Bongo, lui, pour lui, il se disait « la paix n'a pas de prix ». Et il était prêt à tout pour préserver cette paix-là.
Alors, je ne sais pas si Giuliano, qui lui nous appelle également de Libreville, partage votre analyse sur ces craintes de lutte de pouvoir dans la perspective, évidemment, du scrutin présidentiel. Giuliano, bonjour.
Bonjour, Monsieur Juan Gomez.
Bienvenue sur l'antenne. Nous vous écoutons. Vous rejoignez Régis ou pas sur cette analyse?
Pas du tout. J'aimerais dire que nous sommes des Africains. Et à ce titre, je présente probablement mes condoléances à la famille du président de la République disparu. Et j'espère et je soutiens que l'ordre continue à être respecté et qu'à l'issue de la période d'intérim, qu'assure le président du Sénat, des élections libres et transparentes seront organisés.
Alors justement,
pour la première fois dans notre pays.
Giuliano, on ne va pas revenir systématiquement justement sur ce que prévoit la Constitution. On l'a déjà rappelé avec 2-3 auditeurs depuis le début de cette émission. Organiser des élections en 45 jours, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce délai vous semble suffisant pour qu'il y ait, comme vous le disiez à l'instant, Giuliano, des élections libres, et démocratiques et transparentes?
Mais l'article 13 de notre Constitution est clair là-dessus. Donc,
mais vous, en tant que citoyen, est-ce que vous avez le sentiment que ce sera suffisant, ce délai de 45 jours?
Mais toutes les forces, si ce délai n'est pas suffisant, il appartiendra à la classe politique de se retrouver afin de définir la suite des événements. Mais nous réaffirmons, nous disons que l'ordre constitutionnel doit être absolument respecté. Parce qu'il est anormal et révoltant, après 41 ans de pouvoir sans partage par le même, et que ce soit de ce camp-là que les mêmes faillites pour faire un torse à notre loi fondamentale.
Alors, Georges est avec nous.
Le Gabon n'est pas une monarchie. Le Gabon n'est pas une monarchie. Le Gabon est une république. Tout autre scénario, on y sera.
Alors, Giuliano, excusez-moi, je vous interromps, mais le réseau téléphonique se dégrade. On a des problèmes ce matin. On est en direct, évidemment, mais on a des problèmes avec les réseaux téléphoniques et les réseaux portables. Je voudrais qu'on accueille en une petite minute Georges. On le retrouve juste après le point complet sur l'actualité. Georges qui nous a envoyé un courrier électronique. Il est à Bruxelles. Bonjour, Georges.
Oui, bonjour.
Alors, vous revenez également sur ce délai constitutionnel de 45 jours. Vous trouvez que c'est trop court?
Oui, je trouve que c'est trop court parce que organiser une élection qui n'est pas prévue en 45 jours, c'est très court parce que il faut déployer de moyens financiers assez colossaux et il faut toute une logistique. Moi, je pense que il serait intéressant que la classe politique se retrouve et voit dans quelle mesure élaborer un calendrier électoral qui peut aller, disons, dans 3, 4, 5 ou 6 mois pour l'organisation de bonnes élections.
Il faut à tout prix éviter des organisations.